La journée selon Patrick Lagacé.
16h42, comme tous les mardis, on joint notre collaborateur du jour, Patrick Lagacé. Bonjour Patrick.
Salut Eve-Marie.
Alors toi aussi, tu as été interpellé par le combat de Samuel Archibald, auteur, professeur à l'UQAM, contre Desjardins Assurance. En dépression, il n'est pas capable d'avoir ses primes invalidité. Ça a été l'objet de ta chronique dans la Presse Plus. Qu'est-ce que tu as remarqué dans les réactions que ça a suscité?
À quel point c'est répandu, à quel point c'est pas difficile de trouver des gens qui ont vécu le même genre de bras de fer avec un assureur. Puis par bras de fer, ce que je veux dire, c'est ne pas pouvoir toucher ce à quoi on a droit sous des motifs qui sont, je te dirais, douteux. Desjardins a dit que dans la moitié des cas d'assurance collective qu'elle traite, ce sont des cas de santé mentale, si j'ai bien compris, là. Mm-hmm. Et que là-dedans, il y a juste 5 % de refus. Mais écoute, si tu as des centaines de milliers de personnes au Québec que tu assures, puis moi, je pense que on ne doit pas être loin de ce compte-là, là, en matière d'assurer pour Desjardins au Québec, ben, tu sais, 100 000 personnes, tu as quand même 5 000 personnes qui sont refusées. Et ce qui me frappe, c'est à quel point les assureurs semblent capitaliser. Puis là, on va exclure juste Desjardins, là.
Oui, oui.
J'ai eu plein de noms de compagnies, Eve-Marie, là. Mm-hmm. À quel point tu peux pas t'empêcher de penser que les assureurs capitalisent sur l'état de vulnérabilité des gens à qui ils refusent des prestations. C'est, on sait bien que cette personne-là est probablement pas outillée pour se battre si elle est en dépression, accident de vélo, puis là, t'es un peu gazé, t'as pas toute ta tête, puis en plus de ça, t'es polytraumatisé. Ça se peut que tu sois pas vraiment dans un état pour te battre. J'ai de la misère à penser que ça fait pas partie du livre des règlements chez les assureurs.
Oui, mais ça a été une vague de sympathie et aussi de gens qui disent à quel point l'histoire ressemblait à ce qu'ils avaient soit vécu, eux, ou ils ont aidé des proches à traverser tout ça. Desjardins a dit, on va revoir le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont lui donner son argent, mais on va revoir le cas. Est-ce que c'est une réponse qui était satisfaisante, selon toi?
Ben, d'un point de vue de relations publiques, oui. Puis tu sais, sans présumer sur tous les détails, je veux dire, si Samuel Archibald est un fraudeur puis qu'on ne le sait pas, ben regarde, on avisera puis on changera le fusil d'épaule. Moi, ce que je te dis, c'est ce que j'ai lu de Samuel Archibald, ça correspond à ce que j'ai lu dans ma messagerie il y a un an à Eve-Marie quand j'ai écrit autour de Belle Cause pour la Cause en janvier. J'avais écrit deux chroniques là-dessus. J'ai fait une chronique qui parlait de l'État puis de l'accès aux services d'aide psychologique et psychiatrique quand on est en détresse. Première chronique. Deuxièmement, ça visait plus le privé, les employeurs. Je parlais du fait qu'un grand vecteur de maladie mentale, c'est le travail. Puis ça, on le sous-estime beaucoup. T'sais, c'est bien beau d'avoir accès aux services de santé mentale puis à de l'aide psychologique, mais je veux dire, quand ton travail te rend malade, quand le travail rend tellement de gens malades, il y a une réflexion à faire là. Puis ce que j'avais vu dans les courriels que j'avais reçus, c'était cet autre volet-là sur lequel j'avais jamais chroniqué, c'est les bras de fer avec les assureurs. Les gens qui tombent en dépression, en burn-out et qui doivent se battre, s'épuiser alors qu'ils sont épuisés, en se pognant avec leur assureur. Donc, ce que j'ai lu de Samuel Archibald, ça m'a rappelé ces courriels-là. Ça m'a rappelé des témoignages dans mon entourage. Et j'ai dû recevoir 300 courriels depuis hier.
Ouais.
Au moins les deux tiers là-dessus sont des gens qui me racontent leur propre bras de fer. Et à un moment donné, tu as de la misère à te dire que c'est là-dessus, comme pour des réclamations d'accidents d'auto ou d'incendie, je pense qu'une partie du profit des assureurs, c'est plate à dire, ça vient des prestations et des dédommagements qu'ils ne donnent pas.
Moi, j'ai accroché sur une partie du texte de Samuel Archibald quand il raconte qu'à un moment donné, il y a eu un soupçon d'humanité dans la voix de la personne avec qui il discutait chez Desjardins Assurance, puis qui dit, tu sais, Monsieur Archibald, j'en doute pas que vous souffrez, je comprends que vous êtes malade, je le sens très bien à quel point vous êtes en détresse, mais il faut que je vous donne une réponse d'assureur.
Oui, décision d'assureur.
Décision d'assureur.
Oui.
Vas-y.
Allô? Non, ce que j'allais dire, c'est comment je te dirais ça? Je pense que ça a touché beaucoup de gens. Je pense que ça a eu un tel raisonnement sur les médias sociaux parce que son histoire n'est pas étrangère. Quand c'est pas les gens qui ont lu ça, quand c'est pas eux-mêmes qui l'ont vécu, c'est une sœur, c'est une conjointe, c'est un chum. C'est pour ça que ça a scandalisé les gens, je pense. Et je dois te dire...
Mais je pense que les gens, Patrick, ce qu'ils veulent aussi, c'est que, justement, la réponse d'assureur évolue. Parce que les métiers changent. Samuel, c'est un auteur. Mmh. Et oui. Ça se peut qu'il écrive un texte à un moment donné pour se faire du bien. Tu sais, ça fait partie d'une façon de reprendre le contrôle de ta vie quand t'es en dépression. Aller faire du jogging, comme il l'a publié sur ses réseaux sociaux, c'est une façon de se sortir de la dépression, c'est de faire du sport. Les médecins te demandent de le faire. Alors, je pense que le tollé vient du fait que, ben justement, si vous voulez être un bon assureur, là, regardez ce qui se passe, là, puis élevez votre niveau de jeu.
Dans la chronique, là, Eve-Marie, j'ai écrit que ce qui me boguait beaucoup, c'est l'aspect totalitaire de ces décisions-là. C'est-à-dire que si on trouve une petite faille dans ce que tu as fait, on va te nier toute couverture. Et ça, là, sincèrement, il y a quelque chose de... Moi, j'ai utilisé le mot totalitaire, mais on peut s'obstiner là-dessus. Mais tu sais, il n'y a pas de gradation, il n'y a pas de mise en garde, il n'y a pas de... Écoutez, vous êtes allé à la télé, puis vous avez fait, je sais pas, 200 pièces de cachet. Regardez, on va vous l'envoyer, puis la prochaine fois, on va vous l'amputer de votre prestation d'indemnisation, puis après ça, on verra. Attention, là, il pourrait avoir d'autres conséquences. Non, c'est immédiatement, on te coupe tout. Mais ça te met dans une position de faiblesse absolue quand tu arrives pour négocier après. Tu sais, les compagnies d'assurance vont dire, ah, ils ont des recours. Ben oui, ils ont des recours. Le gars ou la femme est en dépression, en burn-out, puis là, il faut que tu prépares ta défense.
Ben,
tu vas te rendre encore plus malade. Moi, c'est ça qui me gosse dans les histoires que j'entends à propos des assurances. Pense à des gens, là, puis je suis certain que les gens qui nous écoutent présentement, là, Eve-Marie, là, ont vécu ça ou ont entendu des gens qui vivent la même affaire de la part des mêmes assureurs. Par exemple, pour l'assurance voyage. Mettons, t'es pas allé à la bonne clinique. T'as pas appelé au bon moment ton assureur pour lui dire que t'as eu un accident de moto dans un pays étranger puis que t'es dans le trouble. Bien, après ça, ça peut être un prétexte pour te nier une couverture, puis ils vont te dire, ah, mais vous aviez juste à lire le formulaire qui fait 17 pages. Moi, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans la relation avec les assureurs qui les avantage et ils ont tout intérêt à nous fourrer. Je m'excuse d'utiliser ce verbe-là, mais ils ont tout intérêt à trouver le moindre prétexte, la moindre brèche pour nier toute couverture. Ils ont un intérêt pécuniaire là-dedans.
Ouais.
Moi, je pense que à la fin, tu sais, on peut faire les campagnes médiatiques qu'on veut, mais il y a une patente qui s'appelle l'État, puis c'est l'État qui, des fois, doit recalibrer ces relations-là. Et on l'a fait au Québec il y a 40 ans quand on a réformé l'assurance automobile parce que c'était encore une fois le domaine des assureurs. Donc, le régime public a mis un terme à une sorte de débalancement dans les rapports de force avec les accidentés de la route et les assureurs.
Patrick, il y a un autre sujet aussi qui provoque de vives réactions. C'est la rémunération des médecins spécialistes. Là, on a un petit peu plus de détails sur leur entente. Là.
On a un peu plus de détails. Écoute, moi, je me suis penché là-dessus il y a 2 ans sur les ententes de rémunération des médecins. C'est quelque chose de byzantin. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Tu sais, récemment, là, il y a l'histoire là, des primes pour les jaquettes. Okay? Quand ils mettaient, je sais pas quoi, là, quand ils mettaient la jaquette pour aller voir un patient,
en isolement,
ils avaient une prime.
Ouais.
Regarde, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est complexe. Ça fait partie des ententes. Au bout de la ligne, oui, t'es payé pour mettre la jaquette, mais regarde, il y a des gens qui connaissent ça, qui avaient de la misère, mais l'expliquer il y a 2 ans. Ce qui n'est pas difficile à expliquer, à mon sens, et qui est le plus difficile à expliquer, c'est le Québec est une des provinces les plus pauvres au Canada. Ça, on peut s'en plaindre. Un des avantages concurrentiels qu'on a, c'est que ça fait un niveau de vie qui est pas mal moins cher à Montréal qu'à Toronto, pas mal moins cher à Gaspé qu'à Sudbury, par exemple. Là, mais ce qui est incompréhensible, je pense, cette nouvelle qui est sortie aujourd'hui, là, ça le confirme encore une fois, c'est comment ça se fait qu'une des provinces les plus pauvres au Canada a fait de ses médecins spécialistes parmi les médecins les plus riches au Canada. C'est 10 à 15 % en haut de la moyenne canadienne. Moi, je ne comprends pas ça. On n'a pas décidé qu'on payait nos profs plus cher que la moyenne canadienne. On n'a pas décidé qu'on payait nos policiers plus cher que la moyenne canadienne, etc., etc. Comment ça se fait que les médecins, eux, ont réussi à avoir ça? Ben, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui a décidé qu'il le faisait. Et il y a deux premiers ministres qui ont présidé à ça, à ce rattrapage-là. Et c'est Jean Charest et Philippe Couillard.
Mais est-ce que tu fais une équation directe avec le fait que on a deux médecins spécialistes qui sont à la tête un peu? Docteur Barrette, qui est au ministère de la Santé, Docteur Couillard, qui est premier ministre. Est-ce que tu fais cette équation-là, toi, Patrick?
Bien, Barrette a été très dur avec les médecins spécialistes, ouais. En toute justice. Là, il y a beaucoup de défauts, mais là-dessus, il a été un dur négociateur avec eux. Sauf que l'absurdité, puis on ne le dira jamais assez, on a tendance à l'oublier, c'est que c'est lui, en tant que président de la Fédération des médecins spécialistes, qui est allé chercher une grosse partie des gains de rémunération. Donc, là-dessus, t'as un aspect du problème. Moi, je pense qu'il y a une sorte de capture cognitive, d'une part. C'est-à-dire que, depuis 15 ans, les négociateurs du gouvernement, les ministres de la Santé, c'était des médecins. Ils ont probablement une sympathie, je te dirais, naturelle, viscérale pour les médecins. Et
ils aussi, connaissent la profession, ils connaissent la réalité sur le terrain. C'est ce qu'ils vont te dire.
Et il y a eu un chantage éhonté de la part des lobbies, en fait du lobby des médecins spécialistes, de la Fédération des médecins spécialistes, qui était une sorte de chantage à l'exode des médecins. Rappelle-toi, il y a quelques années, ça faisait partie de leur stratégie de relations publiques. Si vous ne nous augmentez pas, on va perdre plein de médecins.
L'exode des cerveaux.
Ben, moi, j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours trouvé que ça ne résistait pas vraiment à l'analyse. Un, j'aimerais ça voir les chiffres. Est-ce qu'il y a des médecins qui s'en vont? Oui, parfait. Il y a toutes sortes de professionnels formés au Québec qui finissent par s'en aller, Eve-Marie. Je veux voir les chiffres. Puis deux, disons que tu es un spécialiste au CHUM. Oui, ça se peut que tu te fasses embaucher aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que tu vas être embauché au grand hôpital Massachusetts General à Boston. Mm-hmm. Peut-être que tu vas te retrouver à Wichita. Et à Wichita, c'est pas mal moins sexy qu'à Montréal, je te dirais. Je peux me tromper, mais on a collectivement acheté cet argument-là. C'était peut-être pour le public, tu sais, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. Non. Peut-être que c'était un argument qui faisait mouche, mais de la part de ceux qui s'y connaissent, qui devraient prendre un pas de recul froidement, c'est-à-dire les gens au gouvernement, ben moi, je pense que ça a été une capitulation. Et ça n'a pas de bon sens que nos médecins spécialistes soient payés plus cher que la moyenne canadienne. Moi, je veux qu'ils soient bien payés, nos médecins spécialistes. C'est pas ça le problème. Ils devraient être parmi les mieux payés de la société. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement exigeant. Ça demande des compétences remarquables. C'est des responsabilités que toi et moi, on voudrait probablement jamais.
Et ils sauvent des vies.
Ils sauvent des vies, mais ben ça ne peut pas toujours être l'argument. Ça, les policiers ont le même genre d'argument quand ils négocient ou quand ils ont mauvaise presse. Ils vont dire « Oui, mais vous êtes bien content quand on arrive, quand vous appelez 911. » Je comprends, mais dans le cas des médecins, c'est pas une raison pour faire de toi, un corps de métier parmi les mieux payés au Canada, alors qu'on est une des sociétés les plus pauvres au Canada.
Merci, Patrick.
Salut.
Salut. Avec Patrick Lagacé, chroniqueur à la presse, qui nous parle tout